Toulouse. Merci, le tennis. Première fois. Super. Hein, un peu, vous pouvez applaudir les gens qui arrivent. Ouais. Moi, je trouve ça super. Merci, Seigneur. Antoine, vous connaissez Antoine? Antoine est... Allez, un dimanche sur deux, c'est pas tous les dimanches, il me dit « L'église est belle !» Il a raison, l'église est belle. Et on va continuer à parler aussi de l'église quand on parle des actes. C'est un peu l'histoire de l'église, de sa naissance, de ses premiers temps. Norbert avait commencé acte 4, moi je vais le terminer juste sur un verset qui m'a profondément touché. Alors, ça, voilà, le titre du sujet aujourd'hui, c'est « Un seul cœur, une seule âme ». C'est acte 4, 32. « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. » C'est extraordinaire comme phrase. Dans le semeur, c'est « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. » On a aussi ce passage dans juste avant, acte 2, 41, 47, je le relis, vous l'avez déjà lu, mais ces deux passages sont un peu en reflet l'un de l'autre. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partageaient le produit entre eux selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Waouh, c'est des versets qui sont et des passages extraordinaires qu'on connaît. Ces deux passages font la suite à un moment fort. Le premier, c'était dans acte 2, c'était juste après le premier discours de Pierre, après la Pentecôte. Le deuxième, c'est après un deuxième discours de Pierre, après son arrestation, après le miracle du boiteux. Le fait que le Sanhédrin les avait réprimés, mais n'avait pas osé aller plus loin. Ils se retrouvent de nouveau ensemble et louent le Seigneur ensemble. Et la parole nous dit que la terre trembla de nouveau. Une différence entre le chapitre 2 et le chapitre 4, c'est que dans le chapitre 2, on dit qu'ils sont 3000. Là, on ne dit même plus comment ils sont. Parce qu'apparemment, ils ne pouvaient plus compter. C'est une croissance remarquable. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est l'unité d'un cœur, d'un seul cœur, d'une seule âme. Oui. Tout s'accomplit. Y compris ce qu'avait dit Jésus. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette première communauté chrétienne est une réponse à la prière de Jésus, faite juste avant sa mort. Extraordinaire réponse de la part du Saint-Esprit. Et puis, ces hommes et ces femmes n'ont plus le souci d'eux-mêmes ou de leurs biens, mais ont un souci constant des autres. Leur premier souci, c'est de combler les besoins de l'autre et non pas leurs besoins. Ils partagent avec humilité. Ils regardent ce qu'ils ont comme pas grand-chose par rapport à ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et peut-être ce qui avait de la valeur à leurs yeux. les biens qui avaient de la valeur, qu'ils avaient peut-être honnêtement, même sûrement, acquis, sur lesquels ils avaient fait confiance, n'avaient aucune valeur à ce moment-là, face au cadeau incroyable que Dieu avait donné. Amen. Alors la question qu'on doit se poser, qu'on se pose, c'est et maintenant, est-ce que ce qui a été écrit là est pour aujourd'hui ? Effectivement, on a l'impression de vivre un temps exceptionnel, incroyable dans l'histoire de l'Église. Comme du temps où le peuple d'Israël était dans le désert et recevait jour après jour la manne. Mais est-ce que ce temps vient encore ? Est-ce que le pain ne vient plus du ciel ? Est-ce que le partage n'est plus de notre temps ? Déjà pour l'époque, quel témoignage incroyable dans une société inégalitaire, ce modèle, ce qu'ils ont vécu ensemble, qui était contraire à tout ce qu'on pouvait imaginer. Un seul cœur, une seule âme. Suggère l'entente, la prière. Ils sont tous un. Ils reconnaissent tous l'autorité des apôtres. Aucun apôtre ne se distingue les uns des autres, au point que la grâce de Dieu est sur eux. Et que le temple, lieu où on faisait des sacrifices humains, d'animaux, était devenu le lieu de la louange véritable de Dieu, qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Voici une église qu'on peut trouver idéale. Le royaume de Dieu est parmi eux. Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à vous, a dit Jésus. Ces hommes et ces femmes de Jérusalem étaient entrés dans le royaume. Ils vivaient de manière concrète ce verset qu'ils avaient entendu si souvent, y compris quand ils montaient à Jérusalem, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. Saint Augustin écrit « Ceux-là seuls en qui l'amour du Christ est parfait vivent ensemble dans une vraie unité. » Amen. Alors, est-ce que c'est encore pour aujourd'hui ? On va prendre un autre exemple dans la parole de Dieu qui va être intéressant, c'est Corinthe. C'est quelques dizaines d'années après, quelques 2, 3, 4, 30 ans à peu près, 20 ans. Quand on voit l'histoire de Corinthe et l'église de Corinthe, on n'est plus obligatoirement dans ce même modèle. Dispute entre eux pour savoir qui est apôtre, si on est de Pierre, d'Apollos ou de Paul. Les repas ne sont plus partagés, mais chacun mange, même pendant le repas du Seigneur, n'importe quoi, n'importe comment. Certains s'enivrent, certains n'ont pas à manger. Les mœurs ne sont pas au rendez-vous, pour rester soft. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire que, bon, voilà, c'est fini. Certains vont vous dire, vous savez, ce qui s'est passé à Jérusalem, c'était que pour un temps. Mais voyez bien, après, ça n'a pas existé. C'est un modèle, c'est un idéal, mais ce n'est pas pour nous. Que dit Paul aux Corinthiens ? Est-ce qu'il revoit à la baisse la doctrine, la théologie ? Non, au contraire, il va la parfaire, si j'ose dire. Et il va en donner une définition incroyable. 1 Corinthiens 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes ses membres pour chacun sa part. Non seulement Paul dit, ce que vous vivez n'est pas correct, Mais vous êtes appelé à vivre beaucoup trop, quelque chose de bien plus important. Être le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Par ces paroles, Paul nous explique au fond que ce qui s'est vécu à Jérusalem, c'était la manifestation du corps du Christ. C'était la puissance du corps du Christ. C'était la réalité incarnée du corps du Christ. C'est à cela, comme à Corinthe, nous sommes appelés à vivre. Quels que soient les défauts et les difficultés. C'est la vocation de l'Église. C'est notre réalité spirituelle. Oui. Une Église est à la fois l'épouse parfaite du Christ, et puis c'est aussi une assemblée, faite humaine, faite de défauts, d'imperfections, de plein de choses. Qu'est-ce que je regarde ? Le corps de Christ ou le défaut de mon voisin? Nous vivons la présence réelle du Christ dans l'amour et la fraternité chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire tout simplement comment je regarde mon voisin, mon frère, ma sœur. Quel regard je lui porte? Comment je le vois? Avec des yeux humains? Ou avec un regard où je vois le Christ en lui. Qu'est-ce que je vais mettre en avant vers lui? Son défaut ou le Christ qui est en lui? L'Église, c'est le lieu que Dieu nous a donné. L'Église locale est le lieu concret, matériel, réel, où j'exerce ma foi en aimant mon frère. J'exerce ma foi en aimant mon frère. Oui, il faut de la foi pour aimer son frère ou sa sœur. Ce n'est pas naturel. Il faut une vision spirituelle. Il faut aller au-delà du premier regard. Il faut aller au-delà de ce que je vois la première fois qu'il est devant moi. Il y a des gens pour qui c'est peut-être naturel, mais avec d'autres, je n'ai pas vraiment d'atome crochu. J'exerce ma foi dans la fraternité chrétienne. J'exerce ma foi chaque fois que je vois dans mon frère, dans ma sœur, un fils de Dieu, une fille de Dieu. C'est une réalité difficile, je le sais. Mais nous sommes appelés à cela. Et nous ne devons jamais l'oublier. Ou alors, on passe à côté complètement de ce que c'est qu'une Église. Être un seul cœur, une seule âme. C'est notre vocation, notre appel. C'est le commandement du Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou dans Matthieu 7, faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là l'enseignement de la loi et des prophètes. C'est ce qui se passait à Jérusalem. Ils prenaient soin de l'autre avant de prendre soin de soi. Car eux-mêmes, leurs besoins avaient été remplis. Je n'étais plus en besoin parce que Dieu avait rempli mes besoins. J'étais comme cette femme samaritaine qui disait, où est-ce que je donne-moi à boire de cette eau? Et qui répondait, et Jésus lui répond, si je te donne à boire, non seulement tu n'auras plus jamais soif, mais tu seras une source de vivre. Et ces hommes et ces femmes de Jérusalem étaient des sources pour leurs frères et pour leurs sœurs. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis de l'amour de Dieu. Ils étaient remplis au point qu'ils avaient besoin de donner, de donner, de donner et de partager. C'était vrai à Jérusalem. Paul rappelle que c'est la vocation de Corinthe, que malgré tout ce qu'ils font, c'est vers ça qu'ils doivent aller. Et c'est encore notre appel pour nous. Ça n'a pas changé. Nous sommes appelés à vivre. Un seul cœur, une seule âme. Alors continuons sur la seconde partie de ce verset. Parce qu'il permet de compléter et de mieux comprendre la première partie. Et comment nous pouvons vivre, être un même cœur, une même âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinrent sans propre, mais tous étaient communs entre eux. Pour réfléchir à cette seconde partie du verset, on va revenir encore à Corinthe, toujours à ce chapitre 12. Vous le connaissez sans doute, ce chapitre 12, c'est sur le chapitre sur les dons et sur les ministères. Et c'est comment exercer dans le corps du Christ ces dons. Paul aborde la question de l'unité à travers la question de la diversité. Et il reprend cette image du corps en disant que d'être du même cœur et de la même âme, ce n'est pas d'être tous le même pied ou le même œil. C'est ça qui est intéressant. L'église que Paul propose, ce n'est pas une église de clones. Ça, c'est plutôt une secte. Ce n'est pas une église où tout le monde se ressemble. C'est une église où tout le monde est différent. Et Thierry Juvet a très bien expliqué tout ça il y a une semaine. Et vous pouvez le réécouter. Mais l'image du corps et de ses membres lui permet de donner une réalité spirituelle, de donner une image à un concept spirituel. Et il aborde à propos des dons spirituels. Ah non, ce n'est pas les dons matériels. Mais Paul, en abordant les questions des dons spirituels, aborde la question peut-être la plus importante pour un chrétien. Ce que Dieu m'a donné, est-ce que je le partage ? Est-ce que je le mets au service les uns des autres ? Et si c'est vrai pour les dons spirituels, c'est vrai aussi pour les dons matériels. Parce que ce n'est pas seulement la question des dons, mais c'est la dimension de générosité, de partage et de la compréhension qu'on est tous différents, mais utiles ensemble, au service, ensemble d'une assemblée. Parler des dons spirituels, c'est même des plus sensibles. Parce que c'est lié à notre relation avec Dieu. Ce don est venu de Dieu. Pourquoi mon frère ce don et pas moi? C'est une question aussi vieille que l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Il a écrit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous, comme il opérait à Jérusalem. Car le corps est un et a plusieurs membres. Un et plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, qu'ils soient 3000, 10, 300, 3000 ou une multitude, ils ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais si le pied disait « parce que je suis une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps ? Si l'oreille disait « je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On est là peut-être à un point central de la vie en assemblée, dans une communauté. Être différent, être un. Nous verrons comment Paul résout cela. On a eu une réunion avec le conseil et Thierry Juvet. Et à un moment, Thierry disait, mais ou Monique, c'est la vision qui unit. Alors je me suis dit, mais est-ce que vous êtes vraiment conscient de la vision qui est la mienne? Alors je vais peut-être vous la redonner, parce que c'est au centre de cela. J'y ai pensé, à ce moment-là, dans cette réunion. Je me suis dit, mais quel est au fond de mon cœur? J'ai dit, mais moi, mon cœur, ce qui me passionne dans une assemblée, ce qui m'intéresse le plus, c'est que chacun rentre dans sa destinée, accomplisse ce que Dieu a prévu pour lui, en dans ses dons, dans son ministère, dans son appel, où que ce soit. Ça, c'est mon rêve pour chacun d'entre vous. Ma vision, ce n'est pas un bâtiment, c'est vous. C'est les hommes et les femmes d'une assemblée. Ma vision, c'est vous. C'est vous de vous voir, fils et filles de Dieu, et de voir en vous ce que Dieu a prévu de toute éternité. Et chacun d'entre vous, c'est différent. Nous avons chacun une place irremplaçable, une partition à jouer dans un orchestre. Si nous voulons être quelqu'un d'autre que nous-mêmes, on a tout faux. On joue mal, on joue un autre rôle, on porte un masque religieux. Dieu n'a pas demandé à qui que ce soit d'être autre chose que ce qu'il est. Non seulement on joue mal, mais on passe à côté de l'essentiel. On loupe la cible. Et vous savez ce que veut dire louper la cible en hébreu? Comment le péché? C'est quand on tire avec un arc et qu'on loupe la cible. Entrer dans sa destinée, c'est entrer dans les plans de Dieu. Bien sûr, je sais que pour vous, pour certains, ce n'est pas évident, parce que personne ne vous a donné de valeur. Mais je sais la valeur que Dieu vous a donnée. Je sais la valeur que vous avez. Je sais la valeur que Dieu a sur vous, pour vous. Je sais ce qu'il représente aux yeux de Dieu. Et ma prière permanente, c'est que tout cela éclose, devienne réalité, prenne le pas sur tout le reste. Si on ne vit pas dans ce que nous avons été appelés de vivre, si nous ne voyons pas dans la destinée que Dieu nous a donnée, on vit dans l'amertume, dans la rancœur, dans la frustration, dans le jugement, dans le regard des autres. On commence à se faire un dialogue intérieur. Suis-je aimé par mon frère? Suis-je aimé par mon Père céleste? Est-ce que Dieu m'aime moins que mon frère? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi Dieu lui parle et pas moi? Est-ce que j'ai moins de valeur? Pourquoi est-il si spirituel? C'est, on idolâtre, on idéalise, et très souvent, après, on est déçu. Quel homme de Dieu, quelle femme, il prie pour les malades, ils sont guéris. Il prophétise, il prêche. Et moi, je reste à côté, je suis dans la cuisine, parce que je suis une femme, parce que j'ai moins de valeur. On doit arrêter tout cela. Ça nous fait du mal et ça fait du mal aux autres. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous connaissez cette parole? C'est la parole que l'Éternel adresse à Caïn. Pourquoi ton visage est-il abattu? Redresse-toi, relève les yeux, regarde Jésus, regarde comment Dieu te voit, arrête de te lamenter, reprends foi. Ne pense pas que c'est pour les autres, qu'il n'y a rien pour toi, que tu es le 587e dans une part de gâteau. Vous réécouterez les enseignements, ceux qui n'étaient pas là. Redresse tes yeux. Relève ton visage. Tout à l'heure, je vous citais saint Augustin. Je vais continuer la citation de saint Augustin. Alors, il disait « Ceux-là, seuls en qui l'amour du Christ est parfait, vivent ensemble dans une vraie unité. Car ceux qui en qui l'amour du Christ n'est pas parfait peuvent sans doute vivre ensemble. Mais ils sont entre eux désagréables, querelleurs et rebelles. De leur insatisfaction, ils troublent les autres et cherchent toujours à dire du mal du prochain. On peut les comparer à un cheval ombrageux qui, dans un attelage à deux, non seulement ne veut pas tirer, mais essaye de briser à coups de pied le timon qui le relie à l'autre. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Donc apparemment, du temps de Saint-Augustin, trois siècles plus tard, il y avait encore des problèmes dans les communautés chrétiennes. Ça peut vous rassurer. Et pourtant, Saint-Augustin dit la même chose. Ceux-là seuls en qui l'amour du Christ est parfait vivent ensemble dans une vraie unité, mais car ceux en qui l'amour du Christ n'est pas parfait vivent désagréables, querelleurs et rebelles. On peut les comparer à un cheval ombrageux qui, dans un attelage à deux, non seulement ne veut pas tirer, mais essaye de briser à coups de pied le timon qui relie les autres. Alors tu peux... On va voir si ça marche. Bon, avance. Allez, encore. Voilà. Allez, vous allez dire, il faut qu'il parle d'un film. Forcément, il n'est pas capable de faire une prédication sans parler d'un film. Voilà, Ben-Hur. Quand, il y a 9 ans ou 10 ans, nous avons été désignés et que nous avons, avec 4 anciens, pris la responsabilité de l'Église, il y a un pasteur, Paul Reed, pour ne pas le nommer, qui est venu et qui nous a donné une parole à nous quatre. Et il nous a dit, vous êtes le char de Ben-Hur. Bon, enfin, pas le char, les chevaux. Judas, c'est lui qui dirige le char. Et vous êtes les quatre ensemble. Et je me rappelle très très bien de cette parole, et Antoine me l'a rappelé il y a quelque temps, en disant, mais vous êtes ensemble. Alors si vous connaissez le film de Ben-Hur comme moi par cœur, parce que vous l'avez vu 15 fois et que vous êtes là capable de l'arrêter parce que vous l'aimez toujours autant, vous savez que dans ces chevaux, ils étaient différents les uns des autres. Il y en a un qui allait plus vite, il y en a un qui était fougueux, il y en a un qui était plus lent, mais qui... Et il y a une scène avant, j'ai essayé de la retrouver, mais elle était en anglais, qui est magnifique, où le propriétaire des chevaux explique à Ben-Hur l'intérêt de ces quatre chevaux qui sont tellement différents. Où il y en a un qui est très rapide, mais qui est fragile, et s'il n'y a pas quelqu'un qui tient bien dans le virage, ce cheval va partir de côté. Ils étaient différents, ces quatre chevaux. On aurait pu dire, ouais, regarde, celui-là, il court tellement vite, il faudra mettre quatre pareils. Oui, mais le char, il serait, dans les virages, il serait tombé. Il y a besoin. Et entre Fred Poujol, Fred Perrier, Norbert et moi, on était très différents. Et on l'est toujours. Mais il y avait cette complémentarité. Et cette soumission les uns aux autres. Et la compréhension qu'on ne pouvait rien faire tout seul. Mais que j'avais besoin, que nous avions besoin, les uns des autres. Et nous avons... Et nous continuons d'ailleurs, et c'est un grand bonheur, d'être un seul cœur et d'une seule âme. Ça n'a jamais été toujours facile, mais ça a vraiment été notre appel et notre vocation. Et au-delà de toute chose, c'est la chose primordiale qui m'a tenu et qui a tenu Norbert et les deux Fred, comme on dit. Être unis, être d'un seul cœur et d'une seule âme. Une équipe, une église ne peut être s'il n'y a pas cette soumission les uns les autres, cette volonté d'être tous ensemble, d'être complémentaires, de respecter nos différences, de ne pas juger celui qui est différent de moi, mais de le comprendre, de le respecter, de l'écouter, de l'aimer dans sa différence, de s'accepter, de ne pas penser parce qu'il pense différemment de moi, il est moins bien. Ce n'est pas des petites paroles. Ce n'est pas des paroles, ce n'est pas de la philosophie de bazar que je vous dis. C'est des choses essentielles. Et soyons honnêtes, on ne le vit pas si facilement que ça. C'est quand même plutôt le normal pour moi que ce qui est bien, c'est ce que je pense. Bah, on est tous un peu pareils, enfin, je ne sais pas. S'aimer, c'est se comprendre, se respecter, s'accepter. c'est de nous aimer parce que nous sommes différents. Vouloir que les autres soient comme nous, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas ça l'Église. Ce n'est pas ça le témoignage. Cette multitude à Jérusalem était extrêmement différente. Il y avait ceux qui vivaient en Israël, ceux qui venaient de loin. Il y avait, on verra après, qui auront des difficultés entre ceux qui étaient les hellénistes et les autres. Il y avait énormément de différences. Différences entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux. Mais au lieu de chercher à se marquer, le Saint-Esprit avait fait une telle œuvre entre eux, et pourtant on sait qu'on peut être querelleur quand on vit en Israël, il y avait une telle œuvre entre eux qu'ils étaient un. Ils étaient unis. Ils étaient d'une même âme, un même cœur, dans toutes leurs différences, prêts à penser que ce qui est à l'autre, ce que j'ai, je peux donner à l'autre et vice-versa. Alors, je vais vous faire voir un autre. Alors, j'ai déjà fait, mais puisqu'on me suis dit peut-être que des fois c'est bien de. Ah ben voilà. J'ai déjà fait ça. Pour les plus anciens dans l'église, vous la connaissez cette image. Mais je la ressors parce que je l'aime beaucoup. D'abord parce que j'aime beaucoup le Roquefort, article 1. Alors, à l'époque, je faisais 8 ans devant, j'avais parlé de ces Roquefort. Ils m'ont dit, ben bravo, ils comparent les membres de l'église à du fromage. Vachement sympa, c'est vachement. Mais bon, je vous raconte l'histoire, parce qu'elle m'avait bien plu. C'était dans un restaurant, dans l'Aveyron, pareil. C'est un A. À Saint-Afrique, voilà. Donc, tout près, là, on fait le Roquefort. Et dans les petits restaurants comme on ne fait plus, vous avez encore des nappes blanches, enfin, savez, voilà. On mange pour 12 euros, on mange comme des rois, etc. Bon. Et café de la gare, restaurant de la gare, hôtel de la gare, je vous donne l'adresse, c'est Afrique. Et donc le maître d'hôtel, très imposant, dit, présente son plateau de fromage, et il y avait 13 roqueforts. Tous les roqueforts possibles étaient là. Avec chaque fois, et sur chaque roquefort, il explique le goût, la différence, etc. Tatata. Alors je ne vous refais pas, parce que c'était, ça dure au moins 5-10 minutes. Et il expliquait chaque goût trop fort. Et comme on était là 3-4 jours, on a pu goûter tous les roquefort. Et il terminait toujours sa grande tirade, après avoir donné la différence de chaque roquefort, en disant, ils sont tous différents, mais tous excellents. Et j'avais trouvé la phrase excellente. Et c'est une phrase qu'effectivement, je veux reprendre pour une assemblée. Et pour vous, nous sommes tous différents et tous excellents. Amen. Vous êtes d'accord? Tous différents, mais tous excellents. Tous différents, mais tous excellents. Ça peut rentrer ? Hein ? Vous êtes tous différents, mais vous êtes tous excellents. Personne ici n'est pas excellent. Personne. Personne, personne, personne. Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il n'est pas excellent, là, ça va. Vous êtes tous excellents. Tous différents, mais tous excellents. Amen. Alors pour terminer, on va terminer par ce que dit Paul. Continuons cet épître aux Corinthiens, la fin de son verset, de son chapitre. Et je vais vous montrer une voie par excellence. Alors, qu'est-ce qu'il dit Paul après ? Ah oui, l'amour. Si je peux parler toutes les langues de la terre, si je peux prophétiser, si je peux ceci, ça ne sert à rien si je n'ai pas l'amour. Et c'est tout après cet enseignement sur le corps, sur la diversité, que l'unité ne peut se faire que par l'amour. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce qui rassemblait les disciples, cette multitude à Jérusalem. Voilà ce qui nous rassemble encore. C'est de vivre ce commandement, tout simplement. Et c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut penser sur autre chose, ou des différences de doctrine. L'amour est beaucoup plus important. Il est la base, le fondement de la foi chrétienne. Cette fameuse règle d'or, fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. Tu veux qu'il te dise bonjour ? Dis-lui bonjour. Tu veux qu'il te sourie ? Souris-le. Tu veux qu'il t'encourage ? Encourage-le. Tu veux être invité ? Invite-le. Fais à autrui ce que tu veux qu'il te fasse. Ça, il n'y a pas au-delà. C'est là, dans cela que nous pouvons être si différents. Et dans ce cas-là, quand je regarde mon frère, je ne regarde pas quelqu'un qui va être comme moi, mais quelqu'un qui est si différent que moi et qui m'aime, et qui va m'apporter tellement dans sa différence, tellement dans sa richesse, tellement dans ce qu'il est de différent de moi. Et j'apprends, et je suis enrichi de la différence des uns des autres. Et j'ai besoin du pied, de l'oreille, de tous les membres. Et tous sont uniques et indispensables. Voilà. Ah. On peut laisser la photo. Je crois que c'est à Chartreuse, mémoire. Mais, enfin, le mont à Chartreuse. Voilà à quoi nous sommes appelés. Ne regardez pas donc ce verset en disant « c'est de l'histoire ancienne, c'est pas pour nous ». Ouais, on n'est pas parfait. L'Église n'est pas parfaite. Est-ce qu'on ne va pas faire une comparaison, savoir si entre Jérusalem et Corinthe, on est trois au-dessus, trois au moins ? Ce n'est pas le sujet. C'est ce que c'est. Mais ne perdons jamais l'objectif. Un seul cœur, une seule âme, un corps avec des membres si différents et si excellents. Soyez tous bénis, mes amis, et vraiment, vraiment, ma bénédiction, c'est que vous rentriez chacun au service de tous, dans l'appel que Dieu vous a donné. Amen.
Amen. Amen. On l'a dit ce matin, nous sommes liés les uns aux autres par des cordages d'amour.